fait chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts.
En ce 21 avril 2019, c'est Mathieu qui est au micro avec vous. Simon et Marie-Ève sont avec moi pour la prochaine heure. Donc, on parle d'immigration, de racisme, de sécurité nationale, des enjeux d'actualité, locaux, nationaux, internationaux. Aujourd'hui à l'émission, donc au menu, nous avons une entrevue avec Mohamed Barry du Comité guinéen pour un statut pour tous et toutes vers 15h20. Sinon, nous avons aussi une revue critique du livre Les Brutes et la Punaise de Dominique Payette chez Lux Éditeur par un invité spécial. Ça parle des radios poubelles. Attention, mesdames et messieurs. Sinon aussi, on va parler en suivi un peu de logement. Par rapport à il y a deux semaines, on avait parlé un peu. Le projet de loi 21 et la manif du 14 qui a eu lieu la semaine passée, on va revenir là-dessus. On va parler brièvement aussi des fameux changements pour les demandeurs de statut, demandeurs d'asile inclus dans un projet mammouth budgétaire des libéraux, la bonne vieille technique des conservateurs. Donc, on parlait de ça brièvement. On en parlera plus dans deux semaines. Sinon, on va vous parler aussi du bon coup de la semaine, l'agenda antiraciste. Et on va commencer dans quelques instants avec l'actualité internationale. Ça se passe en France avec Simon. Donc, c'est parti, les apatrides anonymes sur choc.ca.
Simon au micro pour des petites actualités internationales. J'ai pas réussi à me défaire pour cette semaine-ci de mon vieux réflexe d'aller voir du côté de la France. On va essayer pour les prochaines éditions de varier un peu les pays dont on vous parle. Donc c'est une nouvelle qui date déjà il y a quelques semaines et qui peut sembler anodine, mais qui pourrait s'appliquer à toute l'Europe. Une histoire un peu sordide comme on en voit trop souvent, mais qui a dans ce cas-ci pris des proportions quand même assez inhabituelles. Donc, il s'agissait d'une rumeur, évidemment, complètement non fondée sur des histoires d'enlèvement d'enfants par des Roms. Des histoires partagées des milliers de fois en ligne par tonton et bobonne qui sont pas racistes, eh bien non. Il y avait des variantes, mais en gros, la rumeur au départ se disait ceci. Tentative d'enlèvement à Logne, je sais pas c'est où Logne, toujours le même mode opératoire, camionnette blanche avec trois Roumains costauds. Ils sont chez nous, attention à vos enfants. Donc ça avait été publié pour la première fois le 27 mars sur Facebook. Comme je disais, il y a eu plusieurs variantes, le nombre de personnes n'était pas toujours le même, ça pouvait varier. On parlait soit de Roumains, soit directement de Roms, soit on utilisait des sobriquets un peu méprisants comme Jipo. On parlait non seulement d'enlèvement d'enfants, mais aussi de prostitution et de rien de moins que de trafic d'organes. Certaines personnes se contentaient, entre guillemets, de partager la fausse nouvelle. D'autres appellent carrément à se mobiliser pour organiser des genres de milices pour patrouiller les quartiers. Ça finit en général plutôt mal. Il y a eu des lynchages, il y a eu des violences, il y a eu aussi des arrestations, dont 19 personnes en banlieue de Paris à Bobigny qui ont été arrêtées pour avoir lynché deux personnes au profil vaguement rom. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, mais il y a eu des cas de blessures assez graves, des blessures physiques assez graves. Imaginez aussi les blessures psychologiques que tout ça peut entraîner. La haine des Roms est tellement décomplexée que certaines attaques ont été filmées par leurs propres auteurs. Donc, tout le monde se mettait à partager des photos de camionnettes blanches, souvent avec des immatriculations bien visibles. Il y a eu des appels au calme des autorités, des médias, de certains médias, et même de la police. Tu sais, quand c'est rendu que c'est la police qui demande aux fascistes de se calmer, c'est que ça va pas très bien. Donc, c'est passé de Facebook à Twitter à Snapchat, etc., sans que les responsables de contenu de ces entreprises-là ne fassent de modération ou retirent les contenus diffamants qui appelaient à la haine et à la violence. Il y a des associations, dont SOS Racisme, qui est très actif en France, qui ont publiquement interpellé les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Ils ont fait des démarches plus directes aussi, mais sans grand résultat. On se rappelle tous le témoignage de Mark Zuckerberg au Congrès à Washington il y a exactement un an, où soi-disant on disait prendre au sérieux le problème des fake news. Donc depuis ce temps-là, il n'y a eu aucune mesure efficace qui a été prise, ni par Facebook ni par Twitter, à part des suspensions très temporaires de certains comptes qui sont souvent même auto-identifiés comme racistes ou nazis. Il y a eu des partenariats avec certains grands médias pour valider certaines nouvelles, mais ça se limite pas mal à ça. Donc, en attendant, on continue de lyncher des innocents et d'attaquer des campements de personnes déjà très vulnérables, et les contenus haineux continuent de circuler. Une des réponses des réseaux sociaux est que pour qu'un contenu haineux soit retiré, il doit être signalé. Évidemment, SOS Racisme a testé, a signalé beaucoup, beaucoup de contenus qui appellent à la haine, à la violence. Dans la plupart des cas, ça a été jugé conforme par Facebook ou par Twitter. Certains contenus, une petite minorité, ont été retirés. Et de toute façon, dans tous les cas, la réponse peut prendre jusqu'à une semaine. Alors, ça a pu avoir le temps d'être vu et partagé des millions de fois avant qu'il y ait une intervention. La haine anti-Rom, c'est pas nouveau. Donc, personne n'est exactement en mesure de déterminer son origine. Elle aurait toujours et partout été présente en Europe, avec des pointes, évidemment, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale ou comme en Hongrie depuis une dizaine d'années. Là, on est en train d'assister à une pointe en France. Est-ce que ça va perdurer ou se calmer? On verra. Les historiens sont même pas capables de dire si l'aspect partiellement nomade de la communauté rom serait pas justement dû à la discrimination dont les Roms ont toujours été victimes, à force d'être chassés de tous les endroits où ils souhaitaient s'établir de façon plus permanente. Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf. Est-ce que les Roms sont discriminés parce que nomades ou nomades parce que discriminés? C'est une complexe question. De tout temps, les Roms ont été l'objet de mythes très tenaces entretenus par les politiciens, par la presse, et aujourd'hui c'est amplifié par les médias sociaux, comme on a vu tantôt. Des mythes tenaces, parfois millénaires, qui vont de « les Roms sont sales, ils puent, ils transmettent des maladies », comme par exemple la peste noire. On avait accusé les Roms d'avoir été à l'origine de l'hécatombe. Enlèvement d'enfants, vol, viol, sorcellerie, magie noire, cannibalisme, ça peut aller très très loin dans le délire. Déjà au 19e siècle, les journaux rapportaient des fausses histoires d'enfants écoliers embarqués de force dans des charrettes, ce qui fait un peu écho à l'histoire grossière de la camionnette blanche. Les peurs actuelles sont en fait archaïques, mais sont jamais très loin sous la surface, et ça ressurgit à cause d'individus ou de groupes un peu sans scrupules qui n'ont qu'à appuyer sur quelques touches pour les réactiver. Donc, c'est pas nécessairement comptabilisé de la même façon partout, mais en France, la haine anti-Rom est la plus répandue selon tous les derniers rapports annuels de la Commission nationale des droits de l'homme. Et oui, on dit encore les droits de l'homme en France. Loin devant la haine envers les Noirs, les gays, les musulmans, les juifs, etc. Donc, voilà pour la chronique internationale. On va aller en musique.
Merci beaucoup, Simon. Comme tu dis, on va en musique. We'll be right back. Toujours sur les ondes de choc.ca, l'émission des apatrides anonymes. On vient d'entendre le groupe Daliwam ou l'artiste Daliwam avec la pièce Kumasi. On a des petits problèmes techniques depuis le début de l'émission, mais pas vraiment. C'est plus au niveau des chansons, au niveau de la console. Juste vous dire que c'est la fin de semaine de Pâques, c'est dimanche, il n'y a personne ici et on est comme dans un désert qu'on essaie de faire revivre en oasis au niveau technique, donc avec du contenu. Donc voilà, excusez-nous s'il y a des petits trucs techniques, mais le contenu est là et on est très préparé comme d'habitude. Donc troisième émission des apatrides. On va avoir en entrevue plus tard à l'émission quelqu'un du comité guinéen pour un statut pour tous et toutes. En attendant, ben agenda antiraciste, agenda militant, deux petites nouvelles à vous dire, à vous donner. Une discussion, événement, lancement de livre le 24 avril, ce mercredi à 19h au Centre Justice et Foi, 25 rue Jarry-Ouest, organisé par le Centre Justice et Foi et Center for Oral History and Digital Storytelling de l'Université Concordia. Donc, il y a un livre qui a été lancé il n'y a pas très longtemps par Stephen Hay, qui a été traduit en français donc récemment, Histoire de vie de réfugiés montréalais aux presses de l'Université Laval. Et c'est vraiment un livre, je ne l'ai pas lu, malheureusement, ça a l'air très intéressant. Ça nous place au cœur de l'histoire des personnes qui ont dû fuir les guerres, les génocides et les persécutions. C'est un projet de recherche-action, construction de la mémoire avec différentes communautés à Montréal. Donc, permet de mieux comprendre les exils, l'immigration et généralement l'errance qui connaît une part croissante qui concerne une part croissante de l'humanité. Donc, discussion avec M. Hay, justement, qui est prof à l'Université Concordia, qui a sorti ce livre-là. Émilie Nicolas, du collectif Québec Inclusif, et François Rocher, de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est le 24 avril à 19h, donc au Centre Justice et Foi. Allez sur leur site pour plus d'informations. Et l'autre événement, c'est un peu inévitable, c'est nos émissions sont aux deux semaines, donc le 1er mai tombe dans une dizaine de jours. Donc, il y a plusieurs manifestations à Montréal pour le 1er mai, la manif syndicale, la manif des groupes maoïstes, la manif des IWW, Syndicat international des travailleurs industriels, donc qui se passe dans le parc Extension. Et il y a aussi celle de la convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC Montréal. Donc cette année, la thématique de celle du 1er mai de la CLAC, c'est les frontières et les prisons, pour les réfugiés en particulier. Donc je vais vous lire un extrait de l'appel pour la manifestation du 1er mai anticapitaliste qui se passe au Square Cabot, donc point de départ Square Cabot à 18h30. Donc je vous lis un extrait. Donc dans les circonstances actuelles, comment ne pas voir les caravanes de personnes migrantes comme des personnes fuyant une prison de pauvreté et de misère, fuyant une exploitation éternelle. Or cette fuite est inacceptable inacceptable pour notre système impérialiste actuel. Il se construit alors un réseau financé par les États pour kidnapper toutes les personnes qui tentent de se libérer. Un réseau dont l'unique but est de les ramener à leur esclavage initial. Un réseau formé d'agents frontalières, de prisons pour familles migrantes, de police de l'immigration. Toute une chaîne s'étirant du Canada jusqu'aux néocolonies internationales. Une chaîne formée d'enfants prisonniers pendant des années, de familles éparpillées à travers le monde, de femmes violées, d'hommes tués et d'espoirs assassinés. Donc, c'est pas très joyeux, mais c'est pour redonner un portrait un peu d'une analyse plus radicale de la situation des frontières actuellement. Donc, pour vous joindre à cette manifestation du 1er mai, Journée internationale des travailleurs et travailleuses sous le thème des migrations et des frontières, mercredi 1er mai, 18h30, au Square Cabot, clac-montréal.net pour plus d'informations. Voilà.
Alors, au micro avec vous, Marie-Ève, Depuis décembre 2017, les demandes d'asile de nombreux membres de la communauté guinéenne établie à Montréal ont été refusées en bloc. Ces refus, qui correspondent dans les faits à des menaces de déportation, s'inscrivent dans un contexte où les déportations vers la Guinée avaient été ralenties lors de l'épidémie d'Ebola entre 2013 et 2016. Et donc, depuis décembre 2017, la communauté guinéenne se mobilise pour faire pression auprès des autorités canadiennes afin de stopper ces déportations. Il y a une manifestation qui se tiendra d'ailleurs à Montréal le 27 avril prochain, dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour en discuter aujourd'hui, on reçoit Mohamed Barry, qui est un des fondateurs du comité guinéen pour un statut pour tous et toutes. Bonjour, Mohamed.
Oui, bonjour, Madame Marève.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité. Aussi.
D'abord, j'aimerais vous demander, Mohamed, vous êtes vous-même, je crois, en attente de statut, oui?
Oui, justement. Et puis, pas plus tard que 2 mois, que l'agence de services frontaliers m'a envoyé une convocation pour une déportation, étant donné que j'avais un sursis international, qu'ils disent que ça a été levé en 2018, depuis août 2018, mais c'est vraiment contradictoire entre le comité des droits de l'homme et l'agence de services frontaliers. Le comité des droits de l'homme dit que le sursis a été levé au mois de février 2019 et les autres disent c'est au mois d'août. Donc pour moi c'est contradictoire et je n'ai pas été vraiment mis au courant, donc je devrais être vraiment notifié de quoi que ce soit, que si le sursis est levé, que ce soit par écrit ou moins, ou oralement, au téléphone, votre sursis est levé, donc...
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, c'est-à-dire depuis que vous êtes parti de la Guinée, puis jusqu'à ce que vous... vous fondiez, en fait, le comité guinéen pour un statut pour tous et toutes?
Oui, justement, en Guinée, c'était vraiment... je vivais bien malgré que le pays est pauvre, parce que je faisais du commerce avec mon père et tout. Et ça marchait jusqu'en 2012, que j'étais persécuté, j'étais obligé de quitter. Donc, juste un rappel qu'il n'y a personne qui souhaite d'être réfugié, il le devient automatiquement pour une raison à une autre, que ce soit collectif ou individuel. Dans mon cas, c'était individuel. Mm-hmm. Donc, j'étais obligé de quitter la Guinée-Conakry. Et je suis arrivé ici le 10 juillet 2012, justement. Et puis, tout de suite, après 10 jours, j'ai demandé l'asile. Et puis. Depuis ça, ben, j'ai appliqué pour un permis de travail. Donc, 6 mois plus tard, j'ai reçu un permis de travail. J'ai commencé à travailler tout de suite. Donc, après 5 mois que j'ai reçu mon permis de travail, j'ai fait un accident de travail ici au Québec. C'est la raison pour laquelle je marche avec la canne. Et puis, j'ai eu la fracture de 2 orteils et tout. Et puis, c'est pas à cause de mon statut, j'ai été négligé vraiment à l'hôpital. Et puis, il y a eu une gangrène et on était obligé d'amputer le gros orteil. Donc, jusqu'à présent, je vois des spécialistes. Ça enfle. Et puis, entre-temps, je marchais tout le temps avec les béquilles. J'ai développé une thrombophlébite.
Ouais.
Donc, si jamais les caillots vont au cœur, ça va être catastrophique parce que c'est une crise cardiaque ou une paralysie. Ouais. Pour le reste de ma vie, il y a plusieurs médecins qui l'ont confirmé. Il y a plusieurs médecins qui ont écrit vraiment à l'immigration et de l'enjeu de me déporter en Guinée par du fait que d'abord je ne peux pas avoir les soins adéquats en Guinée.
Ouais.
Et en plus, j'ai été blessé ici au Canada, à Québec, par une compagnie canadienne, québécoise. Donc, c'est géré différemment dans d'autres pays. Ça aurait été dans un autre pays comme la France, par exemple, ma situation serait réglée automatiquement.
Ouais.
Donc, mais ça fait plus que 3 fois j'ai envoyé 2 fois demande humanitaire. Ma demande a été rejetée à plusieurs reprises, donc pour des raisons erronées. que je n'arrive pas à comprendre et que le système ne veut pas corriger l'injustice administrative et institutionnelle. Il y a des juges, je comprends, qui sont là-bas temporaires, qui sont anti-réfugiés aussi, et ils protègent leur poste. C'est juste, ils disent non parce qu'ils savent que c'est le nom qui plaît à l'immigration, donc pour protéger leur poste. Et je ne suis pas le seul qui a été rejeté dans le comité, il y en a plusieurs, je ne peux même pas compter.
Depuis, donc oui, c'est ça, donc vous vous êtes vécu, organisé au sein de la communauté.
J'ai tapé à toutes les portes avant de fonder ce comité. J'ai été allé à l'Assemblée nationale du Québec, j'ai écrit à M. Couillard, j'ai écrit à M. Alexander, j'ai écrit à maître, l'ex-ministre de l'immigration, c'est Alexander.
Oui.
J'ai écrit
à
Madame Kathleen, et puis à l'époque, si je me rappelle, c'était en 2014, M. Thomas Milker m'a beaucoup appuyé dans mes démarches. Il a appelé l'immigration avec sa secrétaire, Madame Mathilde. Vraiment, ils se sont montrés très, très proches. J'étais dans leur circonscription à Côte-d'Ivoire. Donc, je vis que si. Cas par cas, ça ne va pas nous arranger. J'ai fait des campagnes de sensibilisation auprès de la communauté guinéenne, et puis avec l'appui de ce double comité immigrant là, CTI.
Oui, le Centre des travailleuses migrantes.
Oui, ouais. Et c'est l'ATAP aussi. Je suis membre de l'ATAP et je suis membre de CTI.
Oui.
Et je suis aussi. Je faisais du bénévolat au Prida pendant plus qu'une année.
Ouais.
Donc, j'ai rencontré beaucoup de réfugiés guinéens à travers le Prida. Donc, il y a des gens qui venaient nouvellement. Donc, j'ai beaucoup d'expérience de l'immigration auprès du Prida. Après, j'ai commencé à sensibiliser. J'ai eu des mobilisations. Il y a des gens qui sont hésitants toujours, parce qu'ils ont peur de se faire arrêter, parce que pour eux, la police, c'est similaire d'une violence, c'est ce qu'on connaît dans notre pays. Et puis, une fois des gens qui sont visés par la déportation, la date est passée, ils ne veulent pas se présenter, même dans les réunions, on n'arrive même pas à les voir. Donc, mais pour moi, ce n'est pas la meilleure façon. Il faut se battre, il faut combattre l'injustice, il faut aller faire tout ce qui est légal pour obtenir la justice. Donc.
Et dans la communauté guinéenne à Montréal, est-ce que c'est toutes les personnes demandent le statut de réfugié ou il y a différents statuts
Dans la communauté guinéenne, il y a des gens qui sont venus ici en tant qu'immigrants reçus, surtout des étudiants de la France. Il y a peu de gens qui ont quitté la Guinée.
Mais qui sont impliqués dans le comité.
Mais il y en a d'autres comme CTI qui nous appuie, il y en a d'autres groupes, le groupe des Haïtiens, on est en contact avec le groupe des Algériens, et puis il y a Action Réfugiés Montréal, il y a Solidarité Sans Frontières, donc il y a tous ces organismes-là qui nous appuient, et puis on collabore entre nous.
Donc, vous avez de la défense de vos droits personnels, vous êtes passé à la défense des droits collectifs.
Et en plus, j'apprécie beaucoup le fait que vraiment la société canadienne, surtout québécoise ici, nous appuie. À chaque fois qu'il y a des manifestations ou il y a des réunions, je vais dire, il y a plus de Québécois et de Québécoises que des Guinéens dans les manifestations. J'apprécie ça beaucoup. Je vois que on n'est pas seul dans la bataille, c'est ça qui est la beauté de la chose, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation concrète des personnes que vous côtoyez, de votre communauté, qui se retrouvent sans statut à Montréal?
Il y en a plusieurs. Personnellement, en tant que porte-parole du comité, je vais vers les gens à chaque fois que je suis au courant que quelqu'un est refusé ou quelqu'un est venu de la Guinée. Je vais chercher à savoir est-ce que c'est un demandeur d'asile, est-ce que c'est un immigrant reçu. Je vais les contacter à travers leurs proches. Il y a des gens qu'on s'est connus comme ça, on a discuté, ils viennent maintenant aux réunions, ils viennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est juste que les manifestations, ils sont réticents d'être sur les médias. parce qu'ils ont peur que l'immigration dise ah voilà, vous êtes nouvellement venus et vous incitez les autres à se battre pour leurs droits. C'est, une de nos collègues nous disait ça, ben, qu'elle ne veut pas apparaître dans les journaux et qu'on sort là, tout. Je dis mais c'est légal, hein, de se battre contre la justice, c'est ton droit. Donc le Canada, c'est un pays des droits. Si on peut pas être à la fenêtre et se voir marcher dans la rue, mais Monsieur Trudeau ne peut pas dire que le Canada, c'est un pays hospitalier et d'être encore à la porte de déporter les gens, pousser à ce qu'on déporte les gens, c'est vraiment contradictoire. Et aller surtout en Guinée dire qu'ils ont besoin de gens ici, s'ils ont besoin de gens normalement, et pourquoi pas régler les gens qui sont déjà là depuis des années. On a construit toute une communauté ici, on est bien intégrés.
Mais, oui, comme vous, ça fait maintenant 7 ans que vous êtes ici.
Oui, on est tous bilingues. Donc, on est tous bilingues, on est tous intégrés, on travaille tous. Et il y en a parmi nous qui étudient comme moi. Donc, vous imaginez que les frais qu'on paye ici en tant qu'étudiant international.
Oui, non, puis c'est très élevé.
Je ne suis pas reconnu en tant qu'étudiant international, vous imaginez. Donc, je paye les mêmes droits, je paye les mêmes prix que les étudiants internationaux. Mais je n'ai pas les mêmes droits que tout simplement parce que j'ai demandé d'asile et puis on nous criminalise. Donc, c'est vraiment choquant.
Pour les personnes qui sont en attente de statut et qui risquent la déportation, quels sont les dangers auxquels elles peuvent faire face si jamais elles sont déportées en Guinée, soit en lien avec la situation politique là-bas ou...
Il y a plus tard que 2 ou 3 mois qu'ils ont déporté un de nos membres, ils ont pris un jet privé. Ça, c'est beaucoup d'argent, c'est gaspiller l'argent du gouvernement. Ils ont déporté avec cet argent, après l'avoir détenu plus de 2 mois au centre de détention de Laval. Et en plus, arrivé à Conakry, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, quelqu'un l'a suivi, il était sur une moto, quelqu'un l'a suivi et ils l'ont renversé. Depuis 2 mois maintenant, il n'est pas capable de parler. On l'aide à se lever, on l'aide à manger, on l'aide à tout. C'est son oncle qui le cache. C'est pas, ça a été commandité. Arrivé là-bas présentement et puis surtout que récemment, le nouveau régime là, à l'actuel régime, c'est-à-dire c'est un régime haineux, il y a l'injustice, il y a l'impunité, il n'y a pas de travail. Et il a déchiré le tissu social des Guinéens tout en poussant des autres tribus contre notre tribu qui sont les peuples. Présentement, même moi, en personne, ma maison a été cochée pour détruire. Donc, ils ont détruit la maison de ma sœur, deux de mes sœurs, un de mes frères et ma maison.
Qui sont toujours en Guinée?
Oui, qui sont toujours en Guinée. Les enfuis, il y a plus que 4000 enfants qui ont perdu leur année scolaire cette année.
Cause de conflits.
C'est juste la façon de faire déguerpir les gens. On dit que c'est une zone réservée, que c'est une zone qui appartient à l'État, d'accord. Si c'est une zone réservée, qui appartient à l'État, pourquoi il y a l'électricité, envoyer l'eau, ils récupèrent leurs factures, les impôts, étant donné que c'est une zone réservée pendant 30 ans, depuis 30 ans, 40 ans, c'est maintenant qu'on sait que c'est une zone réservée. Et même si c'est une zone réservée, même s'ils détruisent, ils ne vont rien construire tout de suite. Ils ont détruit des maisons depuis 2018, il n'y a rien qui est fait jusqu'à date. On casse la maison, on dit, demain si tu ne quittes pas, viens, on détruit les maisons avec les biens des gens. Il y a eu des enfants qui sont tués, leurs mères sont parties au marché pour faire des courses, aller faire l'épicerie, on revient, on trouve des morts dans la maison parce qu'ils ont ils ont démoli les maisons pendant que les enfants, des bébés dorment dans les maisons. C'est vraiment criminel et haineux. Mais il avait prédit quand il était venu, il a dit qu'il va ramener la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Sékou Touré l'a laissé, c'était un ethnocentriste sanguinaire aussi qui a tué beaucoup de Guinéens. dans toutes les ethnies, mais la plupart c'était des Peuls. En 1966, il a forcé les commerçants Peuls à s'exiler. Les cadres, il a tué comme Diallo Telli, le premier secrétaire guinéen à l'aide aux Nations Unies. Comme Barry Troward, qui était mon oncle. Il y en a plusieurs personnes, des centaines, des milliers de cadres qui ont été tués. On les oblige à creuser leur tombe. Il a dit qu'il déclare la guerre au peuple. Mais quand le président dit qu'il va ramener la Guinée là où il s'est couturé, l'a laissé, c'est qu'il a continué les mêmes choses. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il au moins 2, 3, 4, 5, tous des peuples, pourquoi pas les autres.
Donc, pour la manifestation qui est prévue, c'est le 27 avril, c'est ça, à 13h au métro Jarry. Oui. Quelles sont vos revendications, en fait, du comité des Guinéens pour un statut pour tous et toutes?
La première revendication, c'est d'arrêter les déportations vers la Guinée. Eux-mêmes, ils savent qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils ont des compagnies. Il y a des compagnies canadiennes en Guinée, il y a leur ambassade.
Le gouvernement, il y a beaucoup de compagnies minières.
Moi, personnellement, j'ai travaillé quand j'étais en Guinée pour une compagnie minière canadienne qui était la SEMAFO, qui n'existe plus en Guinée maintenant. Il y a SNC Lavalin qui existait en Guinée. Et ils ont beaucoup de compagnies, d'autres comme des compagnies de construction de routes. Malgré qu'ils ne sont pas en train de travailler, mais ça existe. Donc, la première chose, c'est d'arrêter la déportation et donner un statut à tous et à toutes les Guinéens qui vivent ici, présentement, surtout à Montréal.
Oui.
Les gens qui sont là depuis des années, ils sont bien intégrés. Donc, je ne vois pas la raison pourquoi on les déporte comme des criminels, les traiter comme des criminels. Et je demande vraiment au gouvernement, surtout spécialement au ministre de l'Agence de services frontaliers, d'utiliser la règle de l'or, c'est de nous traiter comme il aimerait se faire traiter.
Ouais.
Il n'a qu'à penser à sa fille, à son fils. Nous sommes des fils des gens. Nous sommes des humains comme lui. Donc,
bien, merci. Mohamed, je rappelle à tout le monde que il y aura une manifestation samedi prochain, le 27 avril, à 13h au métro Jarry. J'espère qu'on sera nombreuses et nombreux avec vous dans la rue. Et oui. Je vous remercie encore infiniment pour votre présence.
Je vous remercie. Merci.
Alors, on écoute Border de Kader.
Like Dora, but no one is an island like Bora Bora. You only get a pass to Israel if you're clutching the Torah with a last name to match. Scan through the new world borders. Forget about a dime. If you have an Arabic name, you expect to drop something like four quarters. Then they scoop up some immigrants to fill the quotas. Throw the doctors in the taxis. Throw the women in the mansions. Turned out domestic slaves, but they so meek and they too patient, with constant threat of deportation from the madam or the mister of the house. These Dogville devils don't wanna joust with these lyrics. My words kiss the leftovers of their spirit. They ignore the warning, but I know they hear it. Yet the tides are turning, and I know they fear it. Know they fear it. How the arrogant can be so scared for the colored invasion, they be so perturbed. How the arrogant can be so scared for the colored invasion, they be so perturbed.
خد التليفون واسأل ولا حد سأل لا دبلوماسي ولا سياسي كلهم تحدثوا ثم ناموا خوفونا وجوعونا باسم الديمقراطية سممونا حتى في العيشة العادية ما تركونا وما تروح حدود إنسانية وما تروح حدود عدو ونية بالشعوب العالم حرة وانا مالي حرية انا مالي حرية انا مالي حرية
because you were there. They are here because you unfair. Y'all made promises, mostly lies. They believe you when you was breaking ties, breaking treaties, but building walls. Gated community, security, standing 5 feet tall with economic immunity. So hit them all, just some privileged automatons. Y'all consumed by consumption. All over the world, Muslims detained on assumption. Held at the borders, no entry. Sometimes locked up with no charge. Trying to find a better life, swept up by the mirage.
C'était la pièce Border de Kader, extrait de d'une compilation de Solidarité sans frontières paru il y a quelques années. Donc, on appelait ça Bon coup de la semaine. C'est une espèce de chronique ou de petit sujet qu'on voulait ramener de temps en temps à l'émission. C'est la première fois. C'est pas vraiment un bon coup de la semaine. C'est plus une anecdote, un moment embarrassant, un moment révélateur un peu de nos politiques actuellement. Donc, c'est un entrefilet qui est passé cette semaine. C'est en lien avec la Commission des relations avec les citoyens, citoyennes. Ben non, il y a féminisme même pas. C'est la Commission des relations avec les citoyens qui étudie le projet de loi 9 sur l'immigration. Peut-être vous dire que cette commission-là a reçu 854 commentaires du public. On parle ici, entre autres, de mémoire. C'est assez élevé par rapport à la moyenne habituelle. Et il y a un mémoire qui a attiré l'attention de certains élus et de certains médias et certaines personnes, celui de la Fédération des Québécois de souche, qui avait été présenté la semaine passée, qui a été mis sur le site de l'Assemblée nationale, et il y a eu tellement de critiques sur son contenu qu'il a été finalement retiré du site de l'Assemblée nationale parce que c'était carrément un ode raciste et xénophobe et appelant à la pureté et à la pureté et à la guerre ethnique, carrément. Donc, la présidente de la commission, une certaine Marie-Chantal Chassé, s'est défendue de l'avoir mis sur le site de la commission des relations avec les citoyens parce qu'ils mettent toutes les mémoires. En même temps, après, ils l'ont tiré devant le tollé. Fait que ça a été une très bonne réaction de sa part, comme on la connaît depuis peu, mais on la connaît quand même. Donc, finalement, ça a été retiré. Et puis, même François Legault a qualifié le groupe d'extrême, que ce type de commentaire n'a pas à être public. Donc, dans sa mémoire, la Fédération des Québécoises de souche, non, ils féminisent pas les autres non plus. Donc, ils demandent de favoriser les candidats à l'immigration présentant les plus fortes affinités avec les Québécois, notamment les personnes originaires des régions francophones d'Europe ou de la diaspora canadienne-française. Ils félicitent le gouvernement Legault de s'attaquer à la révision du système d'immigration. Ils disent que ces personnes européennes, francophones, contrairement à celles issues d'une immigration allogène, peuvent s'assimiler complètement notre nation, presque dès leur arrivée, sans altérer significativement sa composition, rien de moins. Une immigration allogène entraînerait davantage de difficultés d'intégration et pose à terme le risque, surtout si elle est trop massive, de changer l'identité même des Québécois. Donc, c'est ce genre de contenu-là sur la pureté raciale, carrément la guerre raciale. On parle du droit de la nation québécoise à conserver son identité ethnique et de prendre les moyens pour y parvenir. Donc, tout ça pour vous dire que je ne dois pas faire la promotion de ce mémoire-là, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui disent ça en 2019 dans des commissions parlementaires par rapport à un projet de loi sur l'immigration. Évidemment, beaucoup diront que c'est encouragé par le gouvernement Legault et ses politiques, ses projets de loi actuels. Donc, ça a passé un peu dans le beurre, un entrefilet, mais finalement, ça a été enlevé. Fait que c'est pas vraiment une bonne nouvelle de la semaine, c'est plutôt un moment fucké, finalement, de l'actualité de la dernière semaine. Et on voit que les groupes d'extrême droite, les groupes néo-nazis ou les groupes racistes sont quand même actifs, même dans les officines parlementaires. Donc voilà, c'était petite nouvelle chronique, petit nouveau sujet. Bon coup de la semaine. On poursuit dans quelques instants avec une review, une critique des Brutes et la Punaise.
On reçoit en studio le camarade Bouzé qui a lu pour nous Les Brutes et la Punaise, paru le mois dernier chez Lux Éditeur. Un essai sur les radios poubelles, la liberté d'expression et le commerce des injures.
C'est ça, Simon. Un essai, je dirais, fort instructif, dont d'emblée je recommande chaudement la lecture, surtout dans le contexte actuel là, où la production et la diffusion de l'information participent grandement à toxifier, empoisonner le climat social. Et c'est cet essai de Dominique Payette se penche en fait sur un aspect particulier de cet environnement toxique. Comme tu l'as dit, c'est le phénomène des radios poubelles, particulièrement tel qu'il s'est développé dans la région de Québec depuis un peu plus que 10 ans, la dernière dizaine d'années, on va dire. Et au cœur de son essai, il y a une question importante, à savoir, est-ce qu'un discours qui entrave la poursuite d'un débat démocratique peut s'inscrire de plein droit dans la liberté de presse? Et c'est évidemment, c'est une question un peu chargée, mais la réponse qui se profile tout au long de l'essai, c'est bien sûr que non, la radio poubelle peut pas, ou du moins ne devrait pas pouvoir se cacher derrière ce prétexte-là pour dire tout et n'importe quoi, et spécifiquement là, pour déverser impunément des propos violents contre certains segments de la population, ce qui évidemment envenime le climat social, et ça c'est bon pour personne.
Est-ce que tu peux mieux... c'est quoi exactement une radio poubelle?
Ben, le terme radio poubelle, c'est un calque de l'expression anglaise trash radio, mm-hmm. qui désigne un phénomène qui s'est développé aux États-Unis depuis les années 80 et dans les années 90, et qui s'est transposé au Québec avec des stations comme Choix FM, la radio X, et FM 93. Et c'est ce qu'on appelle en fait une radio d'opinion, ou une radio de confrontation, c'est-à-dire qu'on y propose une forme de journalisme, entre guillemets, là, qui est axée quasiment exclusivement sur l'opinion, sur l'affect, donc beaucoup de montée de lait, une hostilité cultivée contre tel ou tel segment de la population. On a de l'humour de garage aussi, des jokes poches, des jokes de mon oncle. Donc ça serait cette forme, ça c'est une forme de journalisme qui est au mépris en fait du journalisme d'information rigoureux qui est appuyé sur des faits.
Dominique Payette, ça fait longtemps qu'elle s'intéresse à ce phénomène-là. Si je m'abuse, elle n'est pas exactement novice en matière de journalisme.
Non, effectivement, c'est une journaliste de carrière. Elle a travaillé pendant une trentaine d'années en radio, en télévision. Mais comme tu dis, elle s'est aussi beaucoup intéressée à l'étude de la pratique journalistique. Elle enseigne notamment au département d'information de communication de l'Université Laval depuis 2006. On peut donc présumer qu'elle connaît assez bien son sujet. Et elle a elle-même d'ailleurs goûté à la médecine des animateurs poubelles après avoir publié une étude critique sur ce phénomène-là en 2015. Et c'est justement l'entrée en matière de l'essai. Elle explique là, que ce rapport lui a valu une attaque en règle des radios d'opinion qui n'ont vraisemblablement pas aimé qu'elle mette en lumière le climat de peur qu'instaurent ces radios-là dans la région de Québec. Elle s'est fait, en bon français, pitcher de la marde par les animateurs de poubelle, suite à quoi elle a reçu des tonnes de courriels haineux.
Au Québec, c'est un phénomène qui est quand même relativement nouveau, si je me trompe pas. Donc, il y a toujours eu des animateurs au style plus agressif, mais c'était plus l'exception que la norme. Donc, qu'est-ce qui a changé pour que ça devienne le problème qu'on voit aujourd'hui?
Bien, ça, c'est particulièrement intéressant, à mon avis. C'est peut-être même l'aspect le plus éclairant de l'essai, c'était l'aspect historique, quand Dominique Payette remonte justement aux conditions structurantes qui ont permis la création des radios d'opinion comme on les connaît aujourd'hui. Et elle pointe l'origine du phénomène à la vague de libéralisation. Elle va aux États-Unis. Donc, cette vague de libéralisation qui a marqué les États-Unis dans les années 80 sous l'administration Reagan avec l'abrogation de ce qu'ils appelaient la Fairness Doctrine, un principe d'impartialité en français, qui était une politique introduite en 49 aux États-Unis pour obliger notamment les détenteurs d'une licence de radiodiffusion à traiter l'actualité d'une manière honnête, équitable, mais surtout équilibré. Et ce qui est arrivé, c'est que la Federal Communications Commission, la FCC, qui est un peu aux États-Unis l'équivalent du CRTC au Canada, a supprimé cette politique-là en 87 pour encourager un nouveau modèle d'industrie qui, plutôt que d'être axé sur l'impartialité, serait axé sur la multiplication des diffuseurs et donc sur une diversité en théorie de points de vue politiques qui serait ainsi placée en compétition. Alors, on reconnaît évidemment là la logique libérale, le fameux libre marché des idées, et on sait à quel point cette logique-là est infaillible et que ça fonctionne merveilleusement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que sont apparus les trash radios aux États-Unis, les radios d'opinion, mais aussi, et ça c'est important de le remarquer, des chaînes de télé comme Fox News, par exemple, qui est vite devenue, comme on le sait, une caisse de résonance très, très, très influente aux États-Unis pour le Parti républicain, mais aussi pour les idées conservatrices en général dans la société américaine. Et au Canada, en fait, l'équivalent de cette Fairness Doctrine est la loi sur la radiodiffusion, qui, elle, n'a jamais été scrappée comme aux États-Unis. Mais les modalités de sa mise en vigueur ont été modifié en 91, soit à peu près à la même époque, de sorte que la responsabilité de la faire respecter la régulation a été transférée du CRTC, qui était sous l'influence du législateur, vers le Conseil canadien des normes de la radio-télévision, qui était ça, une nouvelle patente à gosse, créée de toutes pièces par l'industrie, c'est-à-dire l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Alors, autrement dit, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'on se fiait aux entreprises elles-mêmes pour faire appliquer les normes, donc recevoir les plaintes, examiner les plaintes, déterminer si elles sont recevables, éventuellement émettre des blâmes. Donc, c'était, si on veut, un revirement du mécanisme de responsabilité de l'industrie. Et on s'imagine, évidemment, tout de suite le résultat. On s'est rendu compte que dans les années qui ont suivi, que la multiplication quasiment exponentielle des plaintes s'est traduite, au contraire, par une réduction drastique des blâmes formulées. Alors, ben, c'est ça qui arrive quand on demande à des entreprises à but lucratif de s'auto-réguler. Là encore, on sait comment ça marche bien, l'autorégulation. Donc, sur les 1300 plaintes jugées recevables au cours des 5 dernières années, 5 seulement ont donné lieu à un blâme. Alors, c'est des statistiques assez sidérantes. Et donc, ce transfert de mécanisme de responsabilisation-là vers une pseudo-autorégulation de l'industrie, le laisser-faire et l'absence de conséquences réelles ou la quasi-absence de conséquences réelles pour les abus de toutes sortes serait en partie responsable de la situation actuelle.
Quels sont les éléments qui caractérisent cette radio d'opinion, ce qu'on appelle la radio poubelle?
Ben, un autre élément structurant, comme l'explique assez bien Dominique Payette, c'est son modèle d'affaires. Le fait que ces radios-là ciblent un public très, très, très précis, plutôt que de s'adresser au grand public dans son ensemble. Et dans le chapitre qu'elle consacre au modèle d'affaires des radios poubelles, Dominique Payette explique que le public cible de ces radios-là est très spécifiquement composé d'hommes de 20 à 45 ans qui vivent en banlieue. Donc, c'est cette clientèle-là, en particulier, qu'on vend aux annonceurs. C'est donc logiquement à eux que s'adressent les animateurs poubelles pour les maintenir intéressés, les garder à l'écoute et à la portée des annonceurs. Moi, j'écrirais la radio poubelle comme un détournement des ondes publiques au service d'intérêts privés et qui sont réactionnaires. Donc, l'objectif, par la répétition, par d'autres procédés de propagande aussi, par un populisme grossier, un appel constant au fameux gros bon sens, par la proposition de solutions toujours simplistes à des problèmes de société complexes, et toujours aussi par la désignation d'un bouc émissaire, l'objectif, c'est d'implanter dans la conscience collective une vision de la vie politique où il est pas seulement acceptable, mais souhaitable de s'acharner sur n'importe quel segment de la société qui correspond pas à leur idéal, à ces gens-là. Et leur idéal, ben, c'est l'homme blanc d'âge moyen, québécois francophone, un payeur de taxes de classe moyenne, qui est obsessivement centré sur ses petites affaires, ses petits intérêts personnels et qui se méfie maladivement de tout ce qui ne lui ressemble pas. Et c'est un idéal, dans le meilleur des cas, d'homogénéité sociale et d'immobilisme, mais qui tend, on s'en rend compte, lourdement vers un retour à des valeurs sociales passéistes, hyper conservatrices, un retour en arrière. Et dans son livre, Dominique Payette, à grand renfort d'exemple, consacre plusieurs chapitres à décrire les cibles privilégiées des animateurs poubelles. Et là, ben, c'est les boucs émissaires classiques, les féministes en particulier, mais toujours dans une perspective plus ou moins misogyne, les environnementalistes et les cyclistes, et quiconque remet un temps soit peu en question la suprématie du char, les socialistes, les pauvres assistés sociaux, les autochtones, et de manière générale, tout ce qui est un peu à gauche. Et Dominique Payette dit « La recette est toujours la même, désigner un ennemi, le définir comme un corps étranger au vrai monde, multiplier les attaques personnelles et enfariner le tout dans un anti-intellectualisme. »
Un motif d'acharnement pour le moins curieux, surtout vu de Montréal, c'est l'opposition presque maladive à la mise en place d'un système de transport en commun à Québec, là, entre autres.
Ben oui, puis c'est un acharnement qui apparemment n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Alors, bravo à Québec pour ce beau caractère distinct. Hein, la seule place au monde où existe un mouvement populaire d'opposition au transport en commun, c'est quand même extraordinaire. Et cette obsession-là n'est sûrement pas étrangère au fait que 17% des annonceurs de ces radios sont liés d'une manière ou d'une autre à l'industrie de la voiture. Tout comme le fait qu'on invite d'ailleurs des bozos climato-sceptiques à exprimer librement leur délire sur les ondes, comme si ça avait une valeur égale à la montagne de preuves scientifiques de l'existence des règlements climatiques. Et il y a aussi un autre exemple qui, moi, m'a sidéré, c'est le discours anti-syndicaliste qui donne lieu à des situations surréalistes où on nous explique que des syndiqués de la fonction publique sont tellement exposés à ce barrage constant de propos critiques qu'ils en viennent viennent eux-mêmes à se plaindre à leur syndicat que leur plan de retraite est trop généreux. Et là encore, curieusement, c'est un phénomène qui est hermétiquement circonscrit à la région où sévissent ces radios poubelles-là. Ça n'existe pas ailleurs. Et donc, tout au long de l'essai, les exemples sont très nombreux et mis bout à bout, dresse un portrait assez navrant de la situation. Et pour citer Dominique Payette sur cette question des cibles des boucs émissaires, qu'ont en commun ces groupes qui leur vaut d'être ainsi pris à partie? La réponse est d'une simplicité désarmante. Chacun à sa manière rappelle par ses revendications ou par sa simple existence l'importance du lien social. C'est l'idée même que la solidarité puisse être le ferment des sociétés qui provoque la colère des animateurs.
On se demande un peu comment la situation a pu dégénérer à ce point-là. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour endiguer ce phénomène des radios poubelles?
C'est une très bonne question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Mais une des raisons que, comme on l'a évoqué plus tôt, c'est le climat de peur qu'installe les radios d'opinion. Tout le monde a peur de devenir la nouvelle cible des animateurs poubelles et, au premier rang, les politiciens qui pourraient potentiellement être en position de faire quelque chose, qui sont, comme on le sait, tous plus démagogues les uns que les autres et qui vont être plus prompts souvent à se servir cette tribune-là pour avancer leurs propres intérêts qu'à dénoncer les excès des radios poubelles. Et Dominique Payette écrit à un moment donné qu'il est de bon ton dans la classe politique de minimiser l'importance des radios poubelles comme de simples clowneries ou enfantillages et qu'au final, la dégradation du discours et de la prolifération des informations douteuses sont le fait de ceux qui en sont l'origine, mais aussi de ceux qui s'en lavent les mains. Et elle évoque une autre partie du livre, elle évoque l'expérience d'un citoyen qui a voulu lancer en 2013 une campagne de boycottage des annonceurs des radios poubelles et qui s'est fait immédiatement poursuivre en justice par l'entreprise qui exploite Radio X. Il a dû abandonner les poursuites, faute de moyens pour pouvoir se défendre, mais par contre, ce que ça indique, ça, c'est que cette réaction de l'entreprise tendrait à confirmer que ça peut être une bonne piste de solution pour organiser une offensive citoyenne contre la radio poubelle, c'est de s'en prendre à leur portefeuille, pourvu bien sûr d'avoir les moyens et les reins assez solides pour se défendre en justice. Et pour conclure, on sait que la licence de Radio X est échue en 2020, donc l'année prochaine, et c'est peut-être ça une autre avenue de pression populaire là, sur le CRTC pour faire annuler les licences de diffusion. On se rappelle qu'en 2004, quand CRTC a révoqué la licence de diffusion de Radio X, les animateurs avaient été capables de mobiliser le public sur la base d'une défense de la liberté d'expression, mais c'est une défense fallacieuse, comme on le sait tous, puisque, comme le remarque fort justement Dominique Payette, l'utilisation des ondes publiques à des fins lucratives privées n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Alors, c'est à méditer.
Merci, camarade Bouzy, Les Brutes et la Punaise chez Lux Éditeur. On va poursuivre l'émission qui achève.
J'ai quasiment tout marché.
Oui, c'est bien la fin de l'émission des Apatrides de Zanonyme, donc troisième édition. C'était une grosse émission, bien chargée, beaucoup de contenu, quelques petits problèmes techniques. On vous revient dans deux semaines, en dehors d'un long congé pascal, de façon plus fluide. Donc, quelques sujets dont on n'a pas eu le temps de parler, certains suivis, dont le projet de loi fédéral, entre autres, budgétaire, qui inclut des gros changements quand même pour les demandeurs d'asile. On va en parler dans deux semaines. Donc, c'est ça, on se revoit, nous, dans deux semaines exactement. Je vais juste vous sortir la date, là. C'est le 3 mai à 15h. On va se revoir. Merci à Simon pour le contenu et la mise en onde. Merci à Marie-Ève pour l'entrevue. Mon nom est Mathieu. Merci à nos deux invités aussi pour le contenu très intéressant. Et peut-être, je voulais finir en disant qu'on est sur choc.ca. Vous pouvez réécouter l'émission en balado sur le site de choc.ca. À partir de ce soir, elle va être disponible demain matin. Nos coordonnées, c'est apatridesanonymes.info. apatridesanonymes@resist.ca, mais sur le site écrit sur la page de l'émission. Et je voudrais finir avec une spéciale dédicace aux Algériens, Algériennes, Soudanais, Soudanaises qui se battent pour leur liberté depuis quelques semaines et sûrement pour plusieurs semaines encore. Donc, à dans deux semaines, le 3 mai, pour une autre édition des Apatrides Anonymes sur choc.ca.
Y a plus une goutte d'eau pour remplir notre sol.